C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Face au changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, l'innovation serait la solution. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les couloirs du 27e salon Polutech qui s'est déroulé pendant 4 jours cette semaine à Lyon, dans le sud-est de la France. 2200 exposants, dont un quart d'étrangers, répartis sur 100 000 mètres carrés. Ils sont venus présenter leurs solutions pour mieux gérer l'eau, les déchets ou lutter contre les pollutions en tout genre. Cette année, l'invité d'honneur était le Vietnam. Vous l'entendez, plus de 60 000 personnes sont venues dans ce temple de la croissance verte. Alors je vais vous emmener à l'intérieur, on va essayer de visiter cet espace immense. Et pour bien organiser les choses, j'ai rendez-vous avec Pauline Turpot, attachée de presse.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour.
Bonjour.
C'est donc vous, Pauline Turpot ?
Oui, tout à fait, c'est moi.
Alors, vous allez m'aider à m'orienter dans cet immense salon Polutech ?
Tout à fait, je vais être un peu votre guide pour la journée. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir et à découvrir sur le salon.
Parce que c'est énorme ici.
Ah oui, le salon, c'est beaucoup de halls à Lyon. Il y a 60 000 visiteurs d'attendus. C'est un très, très gros salon.
Alors, heureusement, on a travaillé un petit peu en amont, vous et moi. Donc, on a choisi des innovations. On va essayer d'aller sur ces stands-là. Et là, on va démarrer par le village Afrique.
Tout à fait. L'Afrique est un continent très important sur Polutech. Et donc là, on va découvrir le village Afrique, ce qu'il propose.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je suis Cécile Carlier, je travaille pour Polutech. Je coordonne les délégations africaines sur l'espace Afrique de Polutech 2016.
Quel est le but de cet espace ?
Alors, sur cet espace, nous allons mettre en visibilité, en évidence, différents acteurs africains qui travaillent sur les enjeux environnementaux, que les Européens comprennent mieux ces marchés qui sont en grand développement.
Qui vient sur ce stand ?
Alors, par exemple, nous avons le programme national de gestion des déchets du Sénégal. Nous avons une délégation aussi de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie. Nous avons une grosse délégation des maires du Sénégal, des tas de communes qui viennent regarder les technologies du développement urbain. Et puis, du Gabon, un Kenyan aussi qui découvre pour la première fois ce salon francophone. Et puis aussi, il y a la Côte d'Ivoire qui a une très belle délégation qui était pays invité d'honneur il y a 2 ans et qui revient maintenant régulièrement.
Bonjour, je suis Ibrahim Diagne, je suis le coordonnateur du programme national de gestion des déchets du Sénégal.
Alors c'est un immense programme qu'a lancé le Sénégal en 2012. Ça a commencé par une campagne de caractérisation pour comprendre quels étaient les déchets à l'échelle du Sénégal.
Ce programme est né comme des instructions du président de la République parce qu'effectivement l'émergence du pays passe par des territoires propres. Pour ce faire, nous avons commencé par un état des lieux. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal perd 1% de son PIB à cause d'une gestion non rationnelle des déchets. Donc, parce qu'effectivement, les déchets impactent sur la santé des populations, sur l'agriculture, impactent sur le tourisme, impactent sur l'élevage. Ce qui fait qu'il était important que l'État puisse prendre ça en main. De là, nous avons fait un diagnostic et élaboré une stratégie nationale de gestion des déchets. Cette stratégie est basée sur un changement de paradigme. On a voulu passer de gestion des déchets à économie des déchets pour s'inscrire dans les principes de développement durable, c'est-à-dire concilier l'impératif écologique au développement social et au développement économique.
Alors le chantier est colossal. Pendant 2 ans, donc, vous avez parcouru le pays pour faire un état des lieux. Et puis en janvier 2014, vous avez commencé à mettre en place votre stratégie dans 4 villes pilotes. Alors comment ça marche ? Parce qu'aujourd'hui, la collecte des déchets au Sénégal, elle est majoritairement informelle. Donc il faut passer de l'informel au formel et rendre tout cela économiquement viable.
Effectivement, parce qu'il fallait comprendre pour agir. C'est pour ça que nous avons fait des comités régionaux de développement, des CRD, sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal, pour écouter tout le monde, faire des enquêtes ménages au niveau des populations, faire des consultations citoyennes, mais aussi faire une importante campagne de caractérisation nationale des déchets. Ceci a permis de connaître la qualité et la quantité de nos déchets. Aujourd'hui, au niveau de chaque localité du Sénégal, nous avons la production individuelle, la composition des poubelles, mais aussi une connaissance quand même des caractéristiques physico-chimiques de nos déchets. Et ceci a permis d'identifier les filières potentielles de valorisation des déchets. Vraiment, le marché des déchets est aujourd'hui connu. C'est sur cette base que le programme national de gestion des déchets a été élaboré, mais qui est énorme parce que les besoins en investissement dépassent plus de 200 milliards de francs CFA. Donc, il fallait le faire de manière progressive. Et c'est pour cela que 4 villes ont été choisies. C'est Tivaouane, c'est Kaolack, c'est Touba et c'est Dakar qui abrite la capitale pour pouvoir lancer la mise en œuvre de ce programme. À ce titre, le Sénégal a été accompagné par la Banque islamique de développement à hauteur de 35 millions de dollars pour lancer ce programme qui vise à mettre en place des infrastructures, mais des infrastructures qui puissent permettre aussi de mobiliser les acteurs pour une forte création d'emplois. Parce qu'on est un pays à forte demande d'emploi, où il y a beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'il fallait commencer par la formalisation des acteurs informels. Aujourd'hui, dans ces différentes collectivités, les charretiers et les récupérateurs informels ont commencé à s'organiser en société coopérative pour passer quand même d'une gestion individuelle à une gestion collective. Ceci a été un pas important dans la professionnalisation du secteur, parce que ça va permettre quand même de travailler dans des conditions beaucoup plus décentes.
Alors justement, pour qu'on comprenne bien, même si on n'a pas l'image à la radio, mais qu'on comprenne bien le schéma de la collecte et de la valorisation, donc ces charretiers dont vous parlez récoltent les déchets dans les quartiers, parce qu'il y a beaucoup de quartiers où les camions n'ont pas accès, et ils les amènent à des centres de collecte, c'est ça ?
Effectivement, donc il fallait reconstruire la chaîne de collecte. Partir des ménages jusqu'au lieu de traitement. Parce qu'il faut reconnaître que plus de 40% des déchets sont collectés par des charretiers. Donc il fallait avoir quand même des infrastructures qui vont servir d'exutoire. Donc des points de regroupement normalisés au nombre de 32 vont être construits qui vont permettre quand même d'accueillir les déchets provenant de la pré-collecte, de faire un tri primaire. Donc on en aura 10 pour Kaolack, 9 pour Touba, 4 pour Tivaouane et 10 pour Dakar. Donc on aura 32 points de regroupement normalisés qui vont permettre d'accueillir les déchets provenant de la pré-collecte par charrette ou par tricycle, de faire un tri primaire à l'effet de récupérer la partie valorisable. Et maintenant, les déchets ultimes vont aller vers le centre de traitement.
Et quelles matières vont être valorisées alors ?
Aujourd'hui, à partir de l'étude de marché, on a compris qu'il y a un besoin en matières premières comme les plastiques, les fers et métaux et les papiers cartons. Ce qui fait que toutes ces matières vont être récupérées parce qu'il y a déjà des industries locales qui sont demandeuses quand même de ces matières premières. Maintenant, les autres déchets vont aller au niveau du centre intégré de valorisation des déchets. Il va y avoir un tri beaucoup plus affiné à l'effet de récupérer les parties valorisables, surtout la partie organique qui va être orientée vers une filière de valorisation agronomique. L'autre partie, les matières, vont être orientées sur la production de combustibles de substitution. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un déficit énergétique au Sénégal. Il fallait aussi bénéficier quand même de ce gisement de déchets pour pouvoir quand même impacter la production énergétique. Parce qu'il y a des industries aujourd'hui, surtout principalement les cimenteries, qui demandent à accéder aux combustibles de substitution.
Donc finalement, vous avez fait une étude qui prouve qu'économiquement c'est viable. Il y a de la demande pour les matières premières, il y a de la demande pour l'énergie, il y a de la demande pour le compost. Du coup, ça permettra aussi d'éviter l'importation de matières premières. C'est vrai que c'est quand même assez invraisemblable d'imaginer qu'au Sénégal, il y a des entreprises qui importent des granulés de plastique alors qu'elles peuvent utiliser le plastique recyclé.
Effectivement, c'est une réalité. Si on a à inverser la tendance, ça va beaucoup impacter la balance commerciale nationale. Si on arrive à minimiser l'impact négatif sur l'environnement, mais aussi à valoriser tout le potentiel contenu dans les déchets, ce qui va permettre de répondre à l'atteinte quand même des objectifs de développement durable et permettre à terme que le Sénégal puisse arriver à son émergence.
La première pierre a été déposée le 18 novembre par Macky Sall, le président de la République du Sénégal. À quelle échéance les infrastructures vont-elles émerger et cette économie de gestion des déchets va être opérationnelle ?
les travaux ont démarré, parce que le président a lancé quand même les travaux, pour une échéance de 12 mois. On considère qu'au mois de décembre 2017, on pourra réceptionner les infrastructures qui vont permettre vraiment de booster cette économie des déchets.
Et donc, fin 2017, vous pourrez faire un bilan déjà et lancer des travaux dans d'autres villes ?
Actuellement, donc, nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires techniques et financiers, ce qui fait que d'ici fin 2017 aussi, on aura d'autres ressources financières qui permettront d'abord de renforcer ce qui est fait dans la première phase, mais aussi d'élargir, parce que l'objectif, c'est une couverture nationale. Et on espère que ça permettra, dès le mois de janvier, d'engager une deuxième phase qui va permettre de couvrir d'autres localités.
J'imagine qu'il y a beaucoup de pays de la sous-région qui vous observent.
Effectivement. Et l'objectif, c'est que le Sénégal puisse jouer le rôle de leadership au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir vraiment encadrer, accompagner, appuyer les autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans le montage de projets similaires, effectivement, dans la mise en œuvre.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
What you gonna do with all that trash?
Recycle it, recycle it.
How you gonna do with all that trash?
Recycle it, here's how.
Newspapers here, plastics there.
You can make something else with it.
Cans over here, glass over there.
And that's how you recycle it.
Every time you throw away your plastic, plastic. You can make it into something else,
like a table or a picket fence.
Every time you throw away your bottles, bottles. You can just recycle them for someone else,
so someone else can use them.
Every time you throw away a newspaper. You could be recycling it for someone else,
so someone else can read it.
What you gonna do with all that trash?
Recycle it, recycle it.
How you gonna do it with all that trash?
Recycle it right now.
What you gonna do with all that trash?
Recycle it, recycle it.
How you gonna do it with all that trash?
Recycle it today.
Breaks the bottom, that's a lot of data.
What you gonna do with all that trash?
Recycle it, recycle it.
Bonjour, je suis Lajla Sana Fofana, haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui regroupe les républiques de Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, et qui couvre trois bassins fluviaux, le bassin de la Gambie, du Koliba Kurubal et de la Kayanga-Jeba.
Et vous êtes venu ici à Polutech pour témoigner de ce que vous faites en termes de production d'énergie sur le fleuve, c'est bien cela?
Nous sommes venus au salon de Polutech pour deux objectifs. D'abord, partager avec les partenaires notre expérience, ce que nous sommes en train de faire, et aussi chercher des partenaires et recueillir l'expérience des autres pour mieux encore améliorer notre méthode de travail.
Rappelez-nous quels sont les barrages présents sur le fleuve Gambie et quelle quantité d'énergie est produite aujourd'hui?
Nous avons deux barrages. Kaleta et Sambagalu réunis couvrent aujourd'hui la totalité des besoins en énergie de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Et ça couvre au moins 18 à 20% du besoin du Sénégal et de la Guinée. Maintenant, pour l'aménagement de Sambagalu, nous sommes très avancés. Le contrat est signé avec l'entreprise China Gezuba Group Corporation et les travaux vont démarrer au courant du premier trimestre 2017. Swapiti, qui va venir en amont, est un réservoir de 6 milliards 300 mètres cubes. Sambagalu à 3 milliards. Vous voyez ce que ça fait en termes de crédit carbone. Donc nous sommes là pour trouver les partenaires conseils qui nous permettront d'évaluer la valeur exacte de l'apport de ces deux réservoirs en termes de crédit carbone pour pouvoir les formaliser et faire bénéficier les États de ces ressources.
Oui, parce que l'idée, c'est que quand on produit de l'énergie avec de l'hydroélectricité, on n'émet pas de CO2, donc c'est du carbone évité dans l'atmosphère, donc on a le droit à des compensations financières payées par les industries polluantes des pays développés. C'est ça les mécanismes de développement propre et ce que vous appelez les compensations carbone.
Ce que vous venez de dire, c'est exactement ça, le mécanisme de développement propre. Donc tout ça, c'est un peu encourager l'utilisation de l'énergie propre dans le but de davantage protéger l'environnement et les écosystèmes.
Vous espérez rencontrer des bons conseillers ici au Salon Polutech et pouvoir avancer dans ces mécanismes?
Nous en avons déjà beaucoup rencontré. Il n'y a pas que seulement le crédit carbone, Nous sommes intéressés. Vous savez, on a une ligne de 1700 km qui va traverser des collectivités rurales. Il ne faudrait pas que ces collectivités regardent l'énergie passer en dessus comme ça. Il faudrait pouvoir, pour les donner de l'énergie, les électrifier. Et nous sommes en train d'examiner, de prendre contact. Comme la ligne, c'est pour 18 mois avant la fin de la ligne, qu'on installe des centrales solaires au moins de 20 à 25 mégawatts dans chacun des pays. Ça permet non seulement de couvrir les besoins domestiques, mais de développer petites et moyennes industries au niveau des localités. Et ça permet de fixer, de lutter contre l'exode rural, de fixer les populations sur place, de protéger l'environnement.
Donc vous êtes venu aussi faire un peu votre marché ici?
Oui, oui, bien sûr. Nous sommes venus pour ça. C'est un salon donnant-donnant, hein. C'est une coopération gagnant-gagnant. Donc nous sommes venus pour ça.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Donc Pauline, là, on va voir une nouvelle innovation.
Oui, alors c'est l'innovation de Predict Service qui permet de surveiller et de suivre les catastrophes et les changements climatiques.
Bon, ben ça c'est vraiment important. Comment anticiper les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses à cause des changements climatiques? Bonjour.
Bonjour.
Anne-Cécile Bras de RFI.
Enchantée, Charles Robineau, Predict Service.
Alors Predict Service, expliquez-nous ce que vous êtes venu exposer ici à Polytech.
On est donc une filiale de Météo France et d'Airbus Group et de BRL et on travaille sur la gestion et l'anticipation des risques climatiques. Et donc on est venu exposer nos solutions et notamment tout ce qui concerne les applications spatiales qui aujourd'hui peuvent jouer un rôle important dans l'anticipation de ces phénomènes.
Vous êtes dans le hub de l'innovation, donc ça veut dire que c'est high-tech. Alors, pour expliquer simplement, finalement, vous récupérez un maximum de données pour pouvoir prédire des catastrophes qui vont arriver dans différents endroits de la planète et diminuer du coup leur impact. Alors, par exemple ?
Par exemple, on va utiliser des données satellitaires pour mesurer et évaluer à la fois les nuages et les masses nuageuses et également les précipitations potentielles, ce qui va nous permettre de faire une évaluation du risque qui est associé à ces phénomènes qui sont en cours ou en approche. Par ailleurs, on va également utiliser d'autres données satellitaires ou terrestres qui vont nous permettre de connaître la topographie et la vulnérabilité des territoires. Et cela, ça va aussi nous permettre de faire cette expertise en temps réel qui est faite à Montpellier par nos ingénieurs d'astreinte et qui permet d'envoyer une information à différents types d'usagers qui ne se rendent pas forcément compte du risque qui est en approche.
Mais du coup, qui sont vos clients ?
On a des partenariats avec des grands groupes d'assurance qui sont depuis maintenant un peu plus de quasiment 10 ans intéressés à nos solutions. Et on travaille historiquement avec les collectivités qui ont manifesté un besoin très fort d'avoir des informations précises à l'échelle d'un territoire réduit pour pouvoir assurer la sécurité de leurs concitoyens et des biens qui sont associés.
Alors par exemple, les assurances, ça veut dire que les clients reçoivent soit par mail, soit par SMS des alertes ?
Exactement, tout à fait. Il y a de l'information qui est faite en temps réel auprès des clients de grands groupes d'assurance. On sait que chaque citoyen informé prendra les mesures nécessaires pour se protéger lui-même avant tout et puis protéger éventuellement ses biens et sa maison.
Vous n'intervenez pas qu'en France ?
Exactement. Donc aujourd'hui, Predict intervient dans 35 pays, notamment depuis 6 ans au moins avec Haïti, qu'on a assisté notamment lors du passage de Matthew il y a quelques mois de ça.
Donc ça a sauvé des vies.
On en est certain. Ces informations-là ont permis de mettre des gens en sécurité, ont permis de mettre aussi des biens en sécurité. Et on a eu des retours très positifs, malgré un bilan qui reste quand même toujours trop lourd. Des services de l'État qui ont souhaité du coup contractualiser avec nous sur plusieurs années des opérations, on va dire, avec un déploiement plus complet.
Et malheureusement, j'ai envie de dire, votre activité est amenée à se développer avec les conséquences des changements climatiques ?
C'est vrai qu'on a de plus en plus de phénomènes extrêmes, intenses, qui génèrent des catastrophes. D'ailleurs, Predict met en œuvre des moyens supplémentaires pour se développer à l'international et va inaugurer donc en décembre là, une vigie monde qu'on appellera le sémaphore et qui va permettre de suivre l'ensemble des phénomènes sur le globe tout entier.
Polytech, c'est aussi des innovations dans le domaine de l'énergie ou de l'accès à l'eau. On en parle juste après un bref rappel de l'actualité. À tout de suite.
internet.